VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Les Burundais étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs députés et conseillers municipaux communaux. Ce scrutin s'est déroulé sur fond de contestation populaire contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Des violences, jets de grenades et tirs nourris presque toute la nuit ont parfois retardé le début des opérations de vote à Bujumbura. La participation, plus que le résultat, est la grande inconnue de ce scrutin. L'opposition boycottant l'ensemble de ces élections générales, largement condamnées par la communauté internationale. Tout se serait bien passé si l'on en croit le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi, Prosper Taïyé.
Jusqu'à présent, pas d'incident à signaler. Le matériel était au complet. Les électeurs se sont présentés et nous attendons dans quelques minutes, ce sera la clôture des bureaux de vote et le dépouillement va commencer. Le seul problème à signaler, c'était en mairie de Bujumbura dans la matinée. C'était essentiellement un problème de trois ordres. Il y avait le problème de délocalisation des centres de vote qui a dérouté certains électeurs, mais toute la journée, le président de la CENI a donné le message. L'autre problème, c'est qu'il y a eu certains membres des bureaux de vote qui se sont désistés. Il a été question de les remplacer, de les former, ce qui a retardé le début de l'opération de vote. Et puis, le fait de délocaliser les centres de vote a fait que, au niveau de la logistique, ça a demandé beaucoup plus de temps que prévu.
Qu'en est-il de la mobilisation?
La mobilisation, on ne sait pas, on le saura après le dépouillement, c'est là où on verra le taux de participation. Mais d'ores et déjà, l'impression générale, le taux de participation est satisfaisant. À mairie de Bujumbura et à l'été du pays, c'est très satisfaisant.
Prosper Taïyé, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi, joint à Bujumbura par Bagassi Koura. L'Union européenne et l'Union africaine ont renoncé à observer les élections, estimant que les conditions n'étaient pas remplies pour un scrutin crédible. Les seuls observateurs internationaux d'après l'AFP sont ceux de l'ONU, qui a précisé que leur présence ne devait pas être interprétée comme une validation du processus. Le procureur général égyptien Hicham Barakat a succombé à ses blessures aujourd'hui après avoir été la cible d'un attentat à la bombe au Caire, ont annoncé à l'AFP deux ministres. Il est décédé, a déclaré le ministre de la Justice, à l'hôpital où le procureur avait été transporté. Un autre ministre a confirmé cette annonce. Le 21 mai, la branche égyptienne du groupe État islamique avait appelé ses partisans à s'attaquer au juge en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste. La Tunisie a annoncé aujourd'hui les premières arrestations en lien avec l'attentat de la semaine dernière contre un hôtel en bord de mer à Sousse. Michel Joseph.
Le ministre tunisien de l'Intérieur a annoncé lundi l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'homme qui a tué 39 personnes vendredi dernier, en majorité des touristes britanniques. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Nous avons commencé par arrêter un premier groupe, dont le nombre est important, du réseau qui était derrière ce criminel terroriste, a dit Najim Garsali. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le tueur a reçu un entraînement dans des camps djihadistes en Libye. M. Garsali s'exprimait lors d'un point de presse aux côtés de ses homologues français Bernard Cazeneuve, allemand Thomas de Maizière et britannique Theresa May. Il n'a pas précisé le nombre ou l'affiliation des personnes arrêtées. Les ministres allemands, français et britanniques de l'Intérieur se sont rendus ce matin dans l'hôtel où l'étudiant de 23 ans, Sefedine Rezgi, a ciblé ses victimes avant d'être abattu.
Au Tchad, 11 morts, 5 policiers, 5 éléments de Boko Haram et un informateur de la police. Tel est le bilan d'une opération de la police tchadienne tôt ce matin à N'Djamena contre le groupe islamiste nigérian, selon un porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Plusieurs ceintures bourrées d'explosifs ont été saisies dans le cadre de ce coup de filet qui fait suite au double attentat du 15 juin dans la capitale tchadienne qui avait fait, vous le savez, 38 morts, dont les 3 kamikazes à l'origine des attaques. Avant l'opération de ce lundi, le parquet de N'Djamena avait annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation d'une soixantaine de personnes, dont des Tchadiens, des Camerounais et des Maliens, toujours dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 15 juin. En Libye, l'émissaire de l'ONU, Bernardino Léon, a affiché à nouveau son optimisme, bien que les protagonistes ne soient pas parvenus à un accord dans la nuit de dimanche à lundi. Félicie Passizembro.
Après ces 9 mois de travail, il ne reste que 2 ou 3 points à régler et c'est ce dont les partis vont discuter d'ici mercredi auprès de leurs parlements respectifs, a fait valoir M. Bernardino Leon. L'émissaire de l'ONU en Libye a évoqué la perspective d'une reprise du dialogue à Skhira au Maroc dès jeudi. La dernière mouture du projet onusien prévoit, d'après l'AFP, la formation pour 1 an d'un gouvernement d'union avec la désignation d'un premier ministre. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk, reconnus par la communauté internationale.
17h05 temps universel.
VOA Afrique en direct de Washington.
La Grèce au bout du gouffre, la Grèce le grand saut dans le vide, des titres qui ont fait la une ce matin devant le refus des créanciers de prolonger leur assistance. Le gouvernement grec a décrété une fermeture des banques du pays et l'instauration d'un contrôle des capitaux. Athènes a aussi appelé à un référendum le week-end prochain dont l'issue pourrait décider de son appartenance à la zone euro. Salwa Jafari.
C'est ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Dimanche, la Grèce a fermé ses banques pour éviter les retraits massifs. Et la fermer sa bourse. Un signe qui ne trompe pas, Athènes pourrait bientôt se couper de l'Union monétaire européenne. Et puis, ça sera la chute libre, prédisent les économistes, avec la paralysie de l'économie. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, visiblement remonté, parle de trahison et demande aux Grecs de reconsidérer.
Je dirais aux Grecs que j'aime profondément. Il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort.
Le gouvernement d'Alexis Tsipras a aussitôt répondu, doutant de la sincérité de Juncker. Angela Merkel tempère. Elle a affirmé que l'échec de l'euro serait celui de l'Europe et l'appelle au compromis. Mais le ras-le-bol allemand est ressenti dans sa presse. Le Süddeutsche Zeitung a titré aujourd'hui « Cette fois Berlin est vraiment en colère ». Le président Alexis a appelé un référendum le week-end prochain, un vote qui pourrait décider de l'avenir de la zone euro.
Et l'île de Porto Rico dans la mer des Caraïbes est aujourd'hui aussi au bord du précipice. Impossible de repayer sa dette, chiffrée à environ 72 milliards de dollars pour une population de seulement 3,6 millions d'habitants. Tout comme la Grèce, Porto Rico est acculé au mur et le gouverneur du territoire crie bien haut qu'il se rapproche du défaut de paiement. Interrogé par le New York Times, il a évoqué une spirale de la mort, la dette du territoire étant impayable à son avis. Les agences de notation ont placé les obligations de Porto Rico dans la catégorie des junk bonds, les obligations pourries jugées à haut risque.
VOA Afrique en direct de Washington.
Pour parler sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, les deux camps disent s'attendre à ce que les négociations continuent au-delà du délai limite du 30 juin qu'ils s'étaient imposés auparavant pour conclure un accord global limitant le programme nucléaire de l'Iran. Décision confirmée par des officiels américains et iraniens hier. Parmi les points encore en litige, l'accès de l'agence nucléaire de l'ONU au site iranien de recherche et le rythme de la levée graduelle des sanctions contre Iran. L'Iran négocie depuis des années avec les 5 membres permanents de l'ONU plus l'Allemagne. 11 soldats afghans ont été tués lors d'une embuscade dans l'ouest du pays, une région d'ordinaire plutôt stable, signe de l'intensité et de l'étendue des combats contre les forces gouvernementales en pleine offensive estivale. La nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la province d'Herat qui borde la frontière iranienne alors que les soldats roulaient en convoi, indiqué à l'AFP et Sanullah Hayat, le porte-parole du gouverneur de la province. Cette attaque est survenue au moment où les députés s'apprêtaient à entendre Mohamed Massoud Statnegzai, le candidat désigné par le président Ashraf Ghani au poste de ministre de la Défense vacant depuis l'élection présidentielle de 2014. On termine avec le Proche-Orient. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a indiqué lundi, aujourd'hui, qu'il souhaitait la création d'une sorte de quartet plus pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Il s'agirait d'une instance internationale d'accompagnement comprenant des pays arabes qui auraient pour objectif de faciliter et non d'imposer des négociations entre Palestiniens et Israéliens, a-t-il précisé devant la presse à New York. Le quartet pour le Proche-Orient est composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de l'ONU. Il a été fondé en 2002 afin de jouer, sans grand succès jusqu'ici, le rôle de médiateur dans le processus de paix israélo-palestinien. Jean-Roger Billon, prochaine information, c'est dans 20 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.